Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. C'est parti pour deux heures d'infos avec vous et avec à la une de Elisabeth. Tout d'abord, la Queen, finalement, Sa Majesté est en pleine forme. Nouvelle sortie aujourd'hui, toute pimpante pour inaugurer une ligne de métro. Le Royaume-Uni souffle enfin à deux semaines du jubilé, les festivités pour ses 70 ans de règne. Autre Elisabeth, Elisabeth Borne, la nouvelle Première Ministre, au travail, déjeuner avec Emmanuel Macron et début du jeu de chaises musicales pour composer un gouvernement. Les autres titres de l'actu, maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Après l'arrestation de deux Français en Iran, des images et des enregistrements diffusés aujourd'hui par Téhéran qui les accuse d'avoir voulu déstabiliser le pays. Dans ce journal aussi, le cours du blé qui s'envole et le témoignage des Eagles of Death Metal au procès des attentats du 13 novembre. Le groupe était sur scène au Bataclan ce soir-là. Les course dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer le 15, le 7, le 8, le 12 et le 4.
Dans un quart d'heure, un témoignage rare. Notre invité de 18h15 sera un mercenaire, un ex-commandant du groupe paramilitaire Wagner, l'armée secrète de Poutine chargée du sale boulot en Ukraine. À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, analyse de notre rapport à la baguette. Oui, alors que nous sommes en pleine fête du pain, vous allez découvrir comment les normes sociales et l'évolution des rapports humains joue sur notre façon de consommer le pain. Au menu également, le grand jeu de qui va devenir ministre et des bornes à recycler vos vieux chewing-gums tout mâchouillés.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes et puis la météo tout au long de l'émission avec Céline Dacosta. Bonsoir Céline.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Toujours très beau demain, très beau et chaud, hein, journée la plus chaude de la semaine avec les orages qui reviennent par l'ouest.
Et justement, dans une demi-heure, sachez que dans les dessous de l'actu, on ira faire un petit tour à Toulouse. 38 degrés ressentis cet après-midi. Bref, préparez la crème solaire.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Et donc, on la craignait au plus mal. Elle veut montrer qu'il n'en est rien. C'est à nouveau, sourire aux lèvres, que la reine Elisabeth II est publiquement apparue aujourd'hui.
Et oui, sortie surprise à Londres à l'occasion de l'inauguration d'une ligne de métro à son nom, la Elizabeth Line. Cette sortie, on va y revenir avec notre invité. Bonsoir Thomas Pernette.
Bonsoir.
Spécialiste des têtes couronnées au magazine Point de Vue. Vous l'avez forcément scruté, vous, cette sortie. Racontez-nous.
Ah, écoutez, oui, alors montre en main 10 minutes, mais la reine est apparue. C'était la surprise, troisième surprise en 5 jours depuis son absence très remarquée pour le discours de l'ouverture du Parlement. Elle est arrivée pour cette inauguration à la station Paddington depuis un ascenseur transparent. Et puis, elle marchait à son rythme, certes, avec une canne, mais elle marchait tout de même. Et elle a inauguré la plaque. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si elle allait venir. Et en fait, les petits observateurs ont remarqué que la plaque a été changée 1h15 avant son arrivée. C'est-à-dire que c'est son fils cadet, le dernier, le prince Édouard, qui devait inaugurer. Puis on a changé la plaque. On s'est dit, ah, quelqu'un de plus important arrive que le prince Édouard. Et c'était la reine. Et une mention spéciale pour sa tenue, un jaune pimpant comme elle, et ça fait plaisir.
Donc c'était la troisième apparition, vous l'avez dit, de la reine en moins d'une semaine. On est un peu plus de 15 jours maintenant du début des célébrations de son jubilé, les festivités pour les 70 ans de son règne. Forcément, ce ne sont pas des sorties innocentes.
Ah, c'est sûr que ça rassure. S'il devait y avoir un thermomètre ou un baromètre des journalistes royaux, en ce moment, on serait au vert fluo. C'est-à-dire qu'à 15 jours des grands moments des festivités, le 2, le 3, le 4, le 5 juin, la voir en forme, la voir qui marche, la voir aligner comme ça ses engagements, qu'ils soient officiels ou officieux, ça fait plaisir et surtout ça rassure. Parce que jusque-là, bien sûr, on se demandait si elle allait être présente. Et là, de plus en plus, on se dit oui, elle va le faire.
Donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit particulièrement présente pendant le jubilé.
Oui, c'est ce qu'on espère tous. Alors, il y a d'abord le Trooping the Colour, la grande parade, la messe à Saint-Paul le lendemain, et puis même, pourquoi pas, une apparition pour le concert qui est donné devant Buckingham. Mmh. Elle l'avait fait il y a 10 ans pour son jubilé de diamant, donc bien sûr, elle ne viendra pas danser sur scène ou elle ne fera pas de la guitare électrique, mais on peut espérer qu'elle vienne faire un petit coucou à son public et à ses fans, parce que le monde entier attend Elisabeth II dans 15 jours.
Pourquoi pas, effectivement. Merci à vous, Thomas Pernette, journaliste. Merci. Et spécialiste de tête couronnée au magazine. magazine Point de Vue.
RTL et Point de Vue d'ailleurs qui s'associent à l'occasion du jubilé de la reine avec le podcast Elisabeth II. Un épisode chaque semaine pour découvrir une facette de la reine ou de son règne. Quatrième épisode en ligne sur son histoire d'amour avec le prince Philippe.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
Et c'est une autre Elisabeth que l'on a aussi suivie aujourd'hui, Elisabeth Borne, maintenant pour sa première journée de Première Ministre.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
La chef du gouvernement qui doit plancher maintenant sur la composition de son équipe. Elle a d'ailleurs déjeuné avec Emmanuel Macron.
Oui, déjeuner de travail avec leurs bras droits respectifs, ça s'est passé à l'Elysée. Alexis Kohler, le secrétaire général du Palais, était là pour Emmanuel Macron. Aurélien Rousseau, le tout nouveau directeur de cabinet de Matignon, avec aussi des feuilles, des crayons et une gomme, parce que non, au moment où on se parle ce soir, le gouvernement n'est pas encore constitué. Des très proches du chef de l'État nous le confirment. La liste n'est pas figée, pas terminée. Et je dis ça pour les députés et pour les anciens ministres qui, ces dernières heures, sur les applications WhatsApp et Telegram, sur l'iPhone, s'échangent frénétiquement des rumeurs, des listes plus ou moins farfelues. On les a reçues aussi, ces listes. Et je peux vous le dire, la seule info, c'est qu'il faut pacifier. Pendant ce déjeuner à l'Élysée, on a aussi beaucoup parlé de législative. Emmanuel Macron ira soutenir certains candidats dès la semaine prochaine et Elisabeth Borne sera bien candidate dans le Calvados. Elle l'a confirmé aux députés de la majorité qu'elle est allée voir ce matin et normalement elle sera sur place du côté de Vire ce week-end. À 61 ans, c'est sa toute première élection, circonscription très gagnable pour elle. De toute façon, pas le choix. Si elle perd, elle ne pourra pas rester à Matignon.
Et après sa rencontre, en tout cas avec Elisabeth Borne, hein, Emmanuel Macron devait s'entretenir cet après-midi avec son homologue ukrainien. 83e jour de guerre en Ukraine. Une frappe sur un camp militaire au nord de Kiev a fait 8 morts aujourd'hui.
Tandis qu'à Mariupol, 265 soldats ukrainiens ont quitté la poche de résistance d'Azovstal, cette fameuse usine reddition selon Moscou. Kiev, de son côté, parle d'un échange.
Eux ont été arrêtés il y a 10 jours en Iran, provoquant la colère de Paris. Aujourd'hui, Téhéran en a dévoilé un peu plus sur les éléments retenus contre ces deux ressortissants français.
La télévision d'État, Émilie Beaujard, a diffusé des images et des enregistrements de cet homme et cette femme qui étaient venus rencontrer des représentants de syndicats d'enseignants.
Oui, des images de vidéosurveillance montrant les deux Français arrivés à Téhéran le 28 avril dernier. Puis une photo est diffusée, on y voit les deux Français assis sur un canapé entourés de quatre Iraniens, apparemment des syndicalistes. La jeune femme arbore, elle, sur sa chemise, un autocollant FO, Force ouvrière. Et deux des Iraniens ont des écharpes aux couleurs du syndicat français autour du cou. Dans un enregistrement audio à la qualité très médiocre, une voix de femme présentée comme celle de l'enseignante française. On l'entend dire, c'est une bataille pour obtenir la majorité des Iraniens. Car il faut savoir que depuis plusieurs jours, l'Iran est secoué par des manifestations contre la vie chère. Le pouvoir iranien accuse donc les deux Français d'avoir voulu déstabiliser le pays. Contacté, le syndicat Force ouvrière n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL.
C'est une progression vertigineuse, plus 40% en 3 mois. Le cours du blé au plus haut, 438 € la tonne désormais, nouveau record établi hier. On va tenter de comprendre ce qui se passe avec vous, Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, comment on l'explique ?
Alors, tout se cumule en fait. L'Ukraine et la Russie étaient de gros exportateurs de céréales. La guerre a fait flamber aussi les prix des engrais, de l'énergie, du carburant pour les tracteurs. Mais avant, il y a eu aussi le Covid. Le redémarrage de l'économie a eu un impact sur l'énergie et puis le réchauffement climatique. Les cours des céréales avaient grimpé à cause des mauvaises récoltes et voilà une nouvelle sécheresse qui menace à nouveau les rendements en Europe et qui pousse l'Inde, gros pays exportateur, à garder sa récolte de blé pour sa population. Le prix du blé a doublé en un an.
Donc pour nous, consommateurs, concrètement, ça veut forcément dire, Virginie, qu'in fine, on va payer nos produits plus cher.
Forcément, le pain, les pâtes, hein, ce qui est fait directement avec des céréales. Vous avez peut-être déjà vu votre baguette augmenter de 5 à 10 centimes. La viande, le lait, les œufs, tout ce qui vient de productions animales, car les vaches, les volailles, les cochons, ben ça mange des céréales. On devrait être dans une inflation des produits alimentaires de 15% au moins cette année.
L'explication par RTL de Virginie Garin, merci. Et puis lui avait été reporté par le gouvernement à l'an prochain, mais le Conseil d'État a mis son veto. Le report du contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3 ne pourra pas aller au-delà du 1er octobre prochain.
Ils étaient sur scène au Bataclan le 13 novembre 2015. Les Eagles of Death Metal ont témoigné aujourd'hui au procès des attentats. Récit de cette audience très suivie juste après ça sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir à vos côtés, 18h11, la suite de votre journal au procès des attentats du 13 novembre. Un angle de vue inédit aujourd'hui, celui de deux des membres du groupe qui étaient sur scène ce soir-là.
Et face au public, ils sont les seuls à avoir vu les terroristes entrer dans la salle. Le chanteur de Eagles of Death Metal et l'ancien guitariste du groupe ont donc témoigné aujourd'hui. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette audience pour RTL et ce sont deux hommes très émus encore qui ont raconté leur 13 novembre.
Le chanteur Jesse Hughes arrive tout juste d'Oslo. Le groupe est en tournée en Europe mais il voulait absolument être ici, dit-il. Et les larmes montent déjà. Le président de la cour arrive à le faire sourire avec son plus bel accent français. Mr. Hughes, le rocker, nous entraîne alors sur la scène du Bataclan. Au moment où il jette sa guitare en entendant les tirs, lui comprend tout de suite ce qu'il se passe. La mort se rapproche. Le guitariste Iden Galindo se souvient de la terreur sur les visages dans la salle. Leur fuite désespérée les emmène dans les étages, les vestiaires, puis la rue, enfin. Mais le 13 novembre a changé leur vie. Célèbre ou pas, le stress post-traumatique ne fait pas de différence. Il est devenu leur nouveau compagnon de route. Et désormais, souffle Jesse Hughes, nous sommes liés à jamais aux victimes.
Une immense famille, des amis, et peut-être que les choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie sont le résultat de ces attaques.
Des dizaines de rescapés leur tombent dans les bras juste après leur témoignage. Longues étreintes, le mot de la fin est murmuré par le chanteur comme une évidence. On ne peut pas tuer le rock'n'roll. You cannot kill rock'n'roll.
Cindy Hubert au procès des attentats du 13 novembre pour RTL. Voici enfin une absence et une déclaration que l'on ne peut s'empêcher de confronter. Alors qu'en France, le joueur du PSG, Idriss Agueil, a récidivé en séchant une nouvelle fois un match à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Au Royaume-Uni, là, en revanche, un jeune joueur vient de faire une déclaration historique.
Il s'appelle Jake Daniels et il est devenu, Nicolas Georgerot, le premier joueur pro en activité à faire son coming out.
Oui, à 17 ans, premier contrat professionnel avec Blackpool en deuxième division anglaise, 30 buts inscrits en équipe de jeunes, une saison fantastique, écrit-il, mais j'ai caché le vrai moi, j'ai détesté mentir toute ma vie, précise l'attaquant dans un entretien à Sky Sports.
Je pense que c'est parce que beaucoup de footballeurs veulent être reconnus pour leur virilité. Et les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse. Beaucoup ne le font pas pour ces raisons et c'est quelque chose avec lequel on peut vous provoquer sur le terrain.
En Angleterre, Justin Fashanu, en 1990, alors chez les amateurs, avait été le premier joueur en activité à évoquer son homosexualité. Et il en a souffert parfois. Trois décennies plus tard, Jake Daniels dit être indifférent aux réactions des autres.
C'est facile de me cibler avec ça. Comme j'ai dit, vous pouvez me conspuer ou vous moquer. Moi, je joue au foot, je gagne ma vie grâce à ça. Faites comme vous voulez, mais ça ne changera rien.
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, le Prince William notamment, ont salué son courage, son initiative pour, je cite, « casser des barrières qui n'ont pas leur place dans notre société ».
Nicolas Georgerot pour RTL.
Et pour cette journée de lutte contre l'homophobie, hein, c'est aujourd'hui précisément, eh bien, la Ligue de foot professionnelle annonce la mise en vente aux enchères de 114 maillots aux couleurs arc-en-ciel, ceux justement qu'ont porté les joueurs ce week-end lors de la journée de la Ligue 1. Vente aux enchères notamment des maillots de Neymar, Mbappé ou de Messi.
N'en déplaise à Idriss Agueil. Merci beaucoup Marion Calais. Le temps, Céline Dacosta, pour demain, dites-nous tout.
Ouais, déjà,
toujours aussi chaud?
Oui, toujours aussi chaud, et déjà vous dire qu'en ce moment et comme prévu, les orages sont en train d'éclater entre les Pays de la Loire et la Normandie, et puis qu'on a dépassé la barre des 30 degrés pour la première fois de l'année à Rennes, à Niort, à Poitiers, à Bergerac, à Lyon ou encore à Montélimar. Ça c'est pour aujourd'hui, et demain encore très chaud effectivement, ça continue à grimper, 26 à 34 degrés attendus demain après-midi, on sera souvent 10 degrés au-dessus des normales de saison, voire plus même dans le sud-ouest. 34 degrés la maximale, ce sera pour Bordeaux, Auch, Toulouse, Montélimar, et vous vous doutez qu'il va faire très doux déjà dès le matin, avec un ciel qui sera bien dégagé, bien ensoleillé, hein, quasiment partout. On aura juste un petit peu de nuages sur la pointe bretonne, quelques entrées maritimes, vous savez, ces nuages qui arrivent de la mer, hein, sur les côtes méditerranéennes. Ces nuages-là vont se dissiper, ceux de la Bretagne vont stagner, apporteront même une averse dans la journée, et on aura le retour des orages entre la Normandie, l'ouest des Pyrénées, orages qui arriveront en soirée, qui pourront être localement forts avec de la grêle.
Merci Céline. Dans un instant sur RTL, un témoignage rare. Un ex-commandant de Wagner sort du silence. Wagner, c'est l'armée secrète de Poutine, ce groupe de mercenaires qui fait le sale boulot en Ukraine, au Mali, à l'époque en Syrie. Marat Gabidouline ose parler, il va nous raconter ses missions fantômes juste après ça, tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir continue avec un invité assez exceptionnel ce soir. Un ancien commandant de l'armée Wagner, cette armée de l'ombre, cette milice russe qui combat, qui a combattu en Ukraine, en Syrie, au Mali, accusé à plusieurs reprises d'exactions. Officiellement à Moscou, Wagner n'existe pas. Dans les faits, cette force est en première ligne. Bonsoir Marat Gabidouline.
Bonsoir.
Vous avez eu 1000 vies, soldats, porte-flingue dans la pègre, détenus et donc membre de Wagner. Vous êtes le premier membre de cette force à vous exprimer publiquement dans un livre, Moi Marat, aux éditions Michel Lafon. Vous parlez à visage découvert, vous n'avez pas peur de parler?
Il
aurait fallu avoir peur avant. Et maintenant, c'est trop tard. La situation a changé, il faut continuer à avancer.
Mais vous comptez rentrer en Russie? Vous n'avez pas peur de rentrer?
Tout dépendra des circonstances. Si je décide qu'il ne faut pas rentrer, alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas rentrer en Russie. Je ne suis pas un ennemi de mon pays. Et je ne suis pas un ennemi du peuple de ce pays, je suis un patriote.
Alors, vous avez combattu dans cette force Wagner. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, c'est environ 5000 hommes qui sont déployés sur plusieurs terrains de guerre, et notamment en Ukraine en ce moment. Vous évoquez dans votre livre une armée de fantômes. Ça veut dire que pour le pouvoir, officiellement, vous n'existez pas? Et pourtant, vous le racontez, vous faites le sale boulot.
Oui, absolument. Dans les données officielles, il n'y a aucune trace de cette organisation. Mais cette organisation est toujours en action. Sur tous les théâtres de guerre.
Ça arrange le pouvoir.
Oui, bien sûr. Ces combattants ont deux objectifs principaux. Premièrement, remplir des objectifs militaires. Et deuxièmement, c'est cacher à son propre peuple les véritables chiffres des pertes. Pour créer l'illusion d'un succès militaire avec des pertes faibles.
Vous parlez des pertes. Vous-même, vous avez été grièvement blessé en Syrie. Vous avez failli mourir. Vous le racontez dans le livre. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs ce jour où vous finissez dans le coma?
Nous étions sur un flanc de montagne dans la région de Palmyre. L'objectif des combattants était de prendre le contrôle des hauteurs qui permettaient à l'État islamique, depuis ces montagnes, de couper les voies d'accès vers Palmyre. Les combattants de l'État islamique, un combattant en particulier a pu s'approcher, et un groupe de mes éclaireurs a été pris dans une embuscade. Trois de mes hommes tués ont été pris par les combattants de l'État islamique. Et il fallait réagir immédiatement pour retrouver les corps de nos camarades morts. Et nous avons commencé à avancer, nous les avons poursuivis. Nous nous sommes trouvés dans une situation où une grenade a explosé dans mon dos. J'ai été grièvement blessé et j'ai été plongé dans un coma artificiel. Je suis sorti de ce coma une semaine plus tard.
Vous témoignez aussi parce que le contexte change. Vous aviez effectué une mission sans combattre en 2015 en Ukraine, dans le Donbass. Il y a trois mois, votre pays, la Russie, a attaqué l'Ukraine. Vous écrivez dans le livre que la Russie sacrifie ses combattants contre un peuple frère. On vous sent en colère contre le pouvoir russe.
Alors, la colère, peut-être plutôt, je suis un peu perdu. Avant ça, je n'aurais jamais pu m'imaginer une telle situation, ce cauchemar où la Russie ferait la guerre à l'Ukraine. Un pays voisin qui, selon moi, fait partie de ma patrie, c'est un peuple frère.
Vous écrivez, les cerveaux de mes concitoyens se sont transformés en gelée.
C'est comme ça que fonctionne la propagande chez nous. Notre propagande a préparé mon peuple à la guerre pendant au moins 10 ans. C'est un lavage de cerveau constant, ce complexe d'infériorité qu'on leur incule.
Cette idée comme quoi on aurait
perdu la guerre froide.
Et on
leur inculque une menace qui émanerait de l'Ukraine.
À quel moment vous avez pris conscience de cette propagande ?
Ce moment a eu lieu
encore en 2015. C'est là que j'ai compris que la situation à Lugansk est très différente de la situation que présentent nos médias.
Vous étiez à ce moment-là sur le terrain en Ukraine. Qui compose ce groupe Wagner ? On parle d'un culte néo-païen, de néo-nazis. Ça existe vraiment au sein de ce groupe ?
Ces nouveaux courants,
ce n'est
pas des courants nazis, mais des courants nationalistes qui s'appuient sur un courant un peu étrange, un courant qui est de plus en plus populaire aujourd'hui en Russie, cette culture païenne, l'eurodisme. Mais il y a avant tout des opinions nationalistes, la supériorité de la race slave.
On sent que vous êtes à la fois critique sur le groupe Wagner et en même temps fier d'avoir appartenu à cette force. Un travail dangereux et nécessaire, c'est ce que vous écrivez.
À l'époque,
lorsque je faisais partie de cette milice, nous faisions, comme vous l'avez bien dit, un travail dangereux mais nécessaire puisque nous combattions l'État islamique. Nous étions en train de lutter contre un ennemi très dangereux, c'est cette peste du 21e siècle. Puis, je me suis rendu à l'évidence que nous n'étions que des mercenaires. Aujourd'hui, nous sommes du côté du bien et demain, nous sommes du côté du mal.
En Syrie, vous avez combattu, vous l'avez dit, l'État islamique. Vous avez aussi combattu les rebelles de l'armée syrienne libre. Vous n'avez pas de regret d'avoir servi l'armée de Poutine contre l'armée syrienne libre, d'avoir servi Bachar al-Assad, d'avoir tué peut-être pour Bachar al-Assad?
Alors, est-ce que je regrette ?
Oui,
il y a une certaine insatisfaction, puisque nous cherchions à détruire un monstre extrêmement dangereux pour que un autre, peut-être moins dangereux, puisse survivre.
Ничего хорошего bon. Клика Башара Асада своей стране не принесла.
Башар Ал-Асад et ses alliés n'ont rien apporté de bien à son pays. Ils ont provoqué ces combats sanglants dans le pays. On ne peut pas changer le passé maintenant. Oui, nous l'avons aidé à rester au pouvoir.
Merci Marat Gabidouline d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. C'est un témoignage très fort. Donc pour la première fois, un membre, un ex-commandant de l'armée Wagner témoigne de la réalité de cette milice russe, cette armée de l'ombre. Comme vous dites, votre témoignage est à retrouver dans ce livre disponible aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Et RTL Soir continue dans un instant avec tout autre chose. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous d'une journée sous 38 degrés ressentis à Toulouse quand même. Ça, c'est votre faute, Céline. Et puis, laissez-vous tenter dernière. Ça va continuer. Et puis, laissez-vous tenter dernière. C'est parti. On vous emmène à Cannes. Là aussi, il fait chaud sur le tapis rouge parce que le 75e festival va débuter dans quelques minutes. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir vous accompagne. Il est 18h passé de 30 minutes.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et il est donc grand temps de vous rappeler les trois grands titres de l'actualité ce soir. C'est Marion Calais qui s'y colle.
Et alors qu'Elisabeth Borne a déjeuné avec Emmanuel Macron pour discuter notamment de la formation du gouvernement, les critiques réitérées de Jean-Luc Mélenchon dénonçant la brutalité sociale de la Première ministre et ajoutant vouloir la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer, Matignon étant son objectif des législatives. Les candidatures de la Suède et de la Finlande envoyées dès demain à l'OTAN. Les dirigeants des deux pays seront reçus jeudi par le président américain Joe Biden. Et puis la décision du Conseil d'État, le contrôle technique des deux roues les plus anciens d'au moins 125 cm3 devra être instauré d'ici le 1er octobre. Le gouvernement l'avait au départ reporté à 2023.
Merci Marion. Le temps, Céline, pour demain. Chaud, chaud, chaud toujours.
Oui, c'est vrai, chaud. Les températures grimpent encore. Hein, 26 à 34 degrés. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On sera bien au-dessus des normales de saison, surtout dans le sud-ouest où on atteindra les 34 degrés. À Bordeaux, côté ciel, ça sera sera beau, hein, très très beau, même tout au long de la journée. On aura juste un peu de nuages sur la pointe bretonne qui vont rester l'après-midi puisque les orages vont arriver sur toute la façade atlantique. Mais ça, ça sera pour la fin de journée.
Et tiens, justement, les dessous maintenant de ce coup de chaud sur le pays. On va partir à Toulouse, là où la température a été la plus caniculaire ces dernières heures. 32 degrés, 38 ressentis un 17 mai, s'il vous plaît. Bonsoir Patrick Tégéro.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez affronté le mercure pour nous, c'est un peu tous aux abris à Toulouse, système D pour se rafraîchir, c'est ça ?
Oui, il faut d'abord s'adapter et porter donc des vêtements d'été, voire même des vêtements de plage. Démonstration avec Eva, elle a 17 ans, elle est lycéenne.
Une jupe, un top, il faut que ça soit léger et un éventail.
Pour... Et un éventail.
Exactement. Au début, je le prenais pas parce que je me suis dit bon, bah, ça va, on va pas faire la chochotte, mais après, c'est plus possible en fait. Et il faut que je ventile, je supporte pas. Voilà.
Alors, c'est rigolo de voir une jeune femme avec un éventail. C'est plus trop à la mode pourtant.
Oui, mais la mode, on s'en fiche, on a chaud, donc il faut faire avec.
Jacques, lui, ne compte plus ses printemps, mais celui-ci, il s'en souviendra. Il vient de remporter une véritable épreuve sportive, sortir d'un centre commercial climatisé pour rejoindre sa voiture sur un parking surchauffé.
Ça assomme, j'ai mis la bâche quand même.
C'est-à-dire ?
Le béret. Et non, ça va, je me plains pas. Bon, moi, ce que je plains, c'est les agriculteurs surtout.
Oui.
La sécheresse, tout le bazar.
Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter.
Et puis, il y a ceux qui n'ont pas le choix, Patrick, les héros du quotidien qui bossent dehors.
Oui, comme Noé, il est submergé de chaleur, il travaille sur un chantier de voirie et l'asphalte est brûlant.
Le soleil, il tape directement, il n'y a pas d'ombre. Donc moi j'ai pris les équipements que je pouvais, j'ai mis mon t-shirt sur la tête, le casque il fait un peu d'ombre quand même, mais j'ai bu 3 litres d'eau en 2 heures. C'est invivable, mais il paraît que demain il va faire encore plus chaud, donc j'ai essayé de pas trop me plaindre aujourd'hui.
Le titre de héros de l'extrême, c'est Karim qui le mérite, il est pisciniste.
Mais quand il fait 30-35 degrés, en dessous on monte dans les 45, des fois voire 50 comme le liner. De toute façon les piscines c'est quand il fait beau qu'il faut les faire, parce qu'on peut pas poser un liner s'il fait en dessous de 25 degrés, et on bronze, on est les travailleurs de l'ombre.
Au soleil.
Au soleil, c'est ça.
À ce propos, dans ce magasin de matériel de piscine, Cédric, le directeur, voit ses stocks disparaître.
Parce que forcément, on a une consommation qui est disproportionnée par rapport à la période. Et donc, on réalise de très très beaux résultats avec une très grande fréquentation des clients du bassin toulousain.
Comme quoi, il n'y a pas que les glaciers qui se frottent les mains les jours de chaleur.
Patrick Tégéro sous le cagnard toulousain. Merci Patrick, vous avez bien mérité d'aller vous hydrater. Prenez soin de vous du côté de Toulouse. Ce sera pire demain, Céline,
glace,
à Toulouse.
Hein,
combien il fera demain?
Oui, demain à Toulouse, on attend 33 degrés. 33
donc 1 degré
degrés,
de plus qu'aujourd'hui.
34 à Toulouse.
Bon courage aux Toulousains.
Voilà, avec un ressenti parfois proche de 36 à 40 degrés.
À tous ceux qui sont sous ces très très fortes chaleurs.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière. Vivez le Festival de Cannes 2022 sur RTL.
Eh bien oui Céline, vous avez eu raison de mettre votre robe de gala parce que dans Laissez-vous tenter dernière, on donne maintenant le coup d'envoi du 75e Festival de Cannes. La toute première montée des marches est imminente, soirée d'ouverture. On va tout de suite retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Laurent Marsic. Bonsoir Laurent.
Bonsoir les amis, bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On entend la petite musique, vous êtes au pied du tapis rouge, c'est ça?
Écoutez, c'est ambiance disco rétro.
Tout ce que vous aimez.
J'adore ça, j'adore ça. Bienvenue en tout cas sur ce tapis rouge dont le défilé a commencé un petit peu plus tôt que d'habitude, hein, vers 18h10. On a déjà vu passer pas mal de monde. Alors pas encore les gros grands acteurs hein, qu'on attend ce soir, mais j'ai vu passer Roland Joffé, Palme d'Or 86, ici à Cannes pour Mission. On a vu passer Gérard Jugnot, Dominique Farrugia ou encore Jacques Gamblin. Voilà, Eva Longoria aussi qui est passé tout à l'heure, ou Rossi de Palma, Samuel de Lian. On attend ce soir évidemment la grande star américaine qui est à Cannes ici, qui est Forest Whitaker, à qui on va remettre une palme d'or d'honneur, hein, qui est l'acteur fétiche, enfin en tout cas l'acteur emblématique de Bird, de Clint Eastwood. Demain d'ailleurs sera projeté ici son film documentaire qu'il a produit qui s'appelle Au nom de la paix, qui a été réalisé par le français Christophe Castagne sur le Soudan Sud, le plus jeune état du monde en proie à des guerres incessantes. On a vu passer aussi le président du jury, Vincent Lindon. Voilà. Et puis ce soir, on attend évidemment l'équipe de coupé de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Romain Duris.
On attend aussi la maîtresse de cérémonie qui promet de ne pas faire trop long et trop triste, c'est Virginie Efira.
Oui, que j'ai rencontré à son arrivée à Cannes hier. Sa plus grande préoccupation, c'est effectivement de ne pas ennuyer à la fois les 200 millions de téléspectateurs qui vont regarder et le public dans la salle de projection du Palais du Festival. Écoutez Virginie Efira.
C'est pas un one woman show en fait. L'idée, c'est quand même de mettre en avant d'autres personnes que moi et peut-être de vouloir juste essayer de transmettre de manière simple, c'est-à-dire de penser, voilà, c'est la petite difficulté peut-être serait de penser à la fois que c'est une émission de télévision qui a un public qui regarde et ce n'est pas le même degré de conscience que des gens qui sont dans la salle. Et comment unir ça pour qu'une parole juste puisse être entendue de manière simple et donner un esprit, voilà. Je préfère quand c'est un peu le bazar, presque, pour pas trop sacraliser, parce que dès qu'on se dit, moi là, tout le monde n'arrête pas de me dire le monde entier te regarde, je dis mais là pas autre chose à faire déjà, le monde entier là. Donc j'étais en envie de, dans sa tête, de réduire un peu les choses, parce que sinon... Bah, on a l'impression que c'est... nos jambes vont défaillir. Bon, on se calme un peu, quoi.
Il n'a pas autre chose à faire, le monde, j'adore. Virginie Efira, voilà. Maîtresse de cérémonie ce soir. On vous retrouve tout à l'heure, Laurent.
Oui, à 19h tout à l'heure. Avec, je vous donne juste la dernière info qui est arrivée tout à l'heure. Alors, pour l'instant, pas vérifié, mais apparemment, Tom Cruise serait arrivé ici à Cannes.
Ah, quand même. Tom Cruise, qui, j'attendais voilà, qui l'info.
Ouais, Céline nous le confirme. Il est parti assez tôt ce matin de la maison et pour être à Cannes, justement, pour vous
mais
rencontrer
oui,
si, personnellement,
final,
Laurent.
Tu vas être en retard.
Confirmé, on l'attend demain. En fait.
Merci, Laurent. À tout à l'heure, à 19h, dans le journal, donc sur les marches, tout près du tapis rouge pour RTL. Dans un instant, RTL Soir continue. On va défaire le monde avec... la fine équipe, Cyprien Sini, Guillemette Franquet et Néris Ahemani. Bonsoir les amis.
Bonsoir. Bonsoir.
On va défaire le pain avec vous dans un instant parce que c'est la fête du pain cette semaine. Mais, visiblement, la baguette est peut-être une espèce en voie de disparition. On vous explique tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.